Je suis très embêté ce matin. Alors, je vous rassure, ce n'est pas hier soir tard que j'ai découvert que j'étais de prédication ce matin. Fort heureusement, c'est un de mes pires cauchemars. C'est pas ça. Mais je suis très embêté ce matin. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va étudier un texte de la Bible ce matin. Et j'ai peur de votre réaction. Alors là, normalement, vous êtes tous en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Qu'est-ce qui nous fait? Il n'est pas sûr d'expliquer un texte de la Bible ce matin, mais c'est du grand n'importe quoi. Si c'est la première fois que vous venez dans notre assemblée, vous êtes en train de vous demander, mais où j'ai mis les pieds? Si vous me connaissez un peu, j'espère que vous avez un minimum d'espoir et vous dites... ça va quand même bien se passer. Alors rassurez-vous, on ne va pas étudier un passage du Coran ce matin, on ne va pas étudier un livre de développement personnel X ou Y ce matin, mais c'est vrai que le texte sur lequel on va se pencher ce matin, il y a un doute sur son authenticité et sur le fait qu'il fasse vraiment partie de la Bible. Il y a quelques semaines, nous avons terminé l'évangile de Marc. Nous avons fait une série de prédications sur l'évangile de Marc et nous avons fini au verset 8 du chapitre 16. Sauf que si vous ouvrez vos Bibles, vous allez vite vous apercevoir que Marc 16, ça ne se finit pas au verset 8, mais ça se finit au verset 20. Mais le gros problème avec ces 12 derniers versets de l'évangile de Marc, c'est que beaucoup de commentateurs les considèrent comme un ajout au texte original. Et c'est pour ça que peut-être dans vos Bibles, ils apparaissent entre crochets, avec une petite note en disant que certains manuscrits ne semblent pas les contenir, ces versets-là. Ce doute vient en fait du fait que les deux manuscrits les plus anciens que nous avons de l'évangile de Marc, qui datent du 4e siècle, ne contiennent pas ces 12 derniers versets. Et donc on a un doute sur l'authenticité de ces versets. Plusieurs commentateurs pensent que ce texte a été ajouté plus tard au texte originel de Marc et qu'en fait, Marc, lorsqu'il a rédigé son évangile, pour une raison ou une autre, n'a peut-être pas eu le temps de finir son évangile, peut-être à cause de la persécution, ou peut-être que la fin de son évangile a été perdue. Toujours est-il qu'il y a un doute sur ce texte-là, sur cette partie du texte de l'évangile de Marc. Mais en même temps, d'autres personnes avancent des arguments en faveur de l'inclusion de ces versets à l'évangile de Marc. Pratiquement tous les manuscrits qu'on a du 5e siècle après Jésus-Christ comportent ces versets. Le verset 8 serait une conclusion un peu étrange à l'évangile de Marc. Et aussi, si la fin de l'évangile de Marc a été perdue ou remplacée par un résumé plus tardif, alors... cela remet en cause les paroles de Jésus, d'une certaine manière, qui disait, en Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et donc, il y a un doute sur ce texte-là. Est-ce qu'il fait vraiment partie de l'Évangile ou est-ce que c'est un ajout plus tardif? Et ce matin, j'avais à cœur quand même de continuer, de finir vraiment, boucler l'Évangile de Marc en traitant ces quelques versets, parce que dans ces versets, on trouve deux thèmes en particulier, où on peut avoir des interprétations théologiques très différentes de ce que nous pensons dans notre assemblée. Et c'est bien aussi de nous confronter à ce genre de textes pour voir comment on peut les comprendre et pourquoi on a un regard peut-être différent d'une autre théologie qui part de ces versets. Donc je vous encourage à lire ensemble Marc 16 à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Et on va prendre ce texte comme si c'était vraiment un texte de la Bible. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que deux d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, ils leur apparurent sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas eux non plus. Plus tard, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travailla avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Donc, peu de temps avant, Marie de Magdala s'est rendue avec deux autres femmes jusqu'au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Mais arrivée au tombeau, plus de corps. Le corps de Jésus a disparu. Et un ange se présente à elle et leur dit que Jésus est ressuscité. Suite à ça, ces femmes sont parties du tombeau. Et a priori, quelques temps après, Marie est retournée un peu plus tard au tombeau. Et c'est à ce moment-là même que Jésus lui apparut à elle seule. Elle est la toute première personne à qui Jésus a décidé de se révéler en tant que ressuscité. Cette femme, Marie de Magdala. Marie de Magdala est donc une femme que Jésus a délivrée de sept démons, d'après le verset 9. Suite à cette délivrance miraculeuse, cette femme a décidé de suivre Jésus partout où il allait, avec les autres disciples, et l'aidait de manière très pratique. Luc 8, verset 1 à 2 nous dit « Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné de 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons, Jeanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. » Donc cette femme a été délivrée par Jésus et elle a accompagné Jésus pendant tout son ministère. Et cette femme ne s'est pas contentée de suivre Jésus quand il était au sommet de sa gloire, au moment où tout le monde le suivait d'une certaine manière, où il faisait des miracles, où il guérissait plein d'hommes et de femmes. Non, elle a continué de suivre Jésus dans le pire des moments, alors que les apôtres, eux, l'avaient abandonné. Et Patrice nous l'a dit au moment de la scène. Jésus a été abandonné par les apôtres, pas par cette femme, pas par Marie. Elle était près de Jésus au moment de sa crucifixion et de sa mort. On le voit dans Jean 19, verset 25. Elle a même accompagné le corps de Jésus jusqu'au tombeau pour s'assurer de savoir où était posé le corps de Jésus. En Marc 15, verset 47. Cette femme a été l'une des disciples les plus fidèles à Jésus, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, au moment de sa mort, de sa crucifixion. Et même après sa mort, elle a continué de suivre Jésus, le corps de Jésus en tout cas. Cette femme, fidèle parmi les fidèles, a reçu un cadeau extraordinaire. C'est à elle que Jésus s'est révélé le premier en tant que ressuscité. Elle a eu une récompense unique. Et après cette apparition incroyable, Marie est retournée vers les disciples pour leur annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus. Ses disciples qui étaient dans la tristesse, en larmes, et on peut le comprendre. Et quand Marie a dû débarquer au milieu de ses disciples, ça a dû vraiment dénoter les émotions. Un deuil pas possible et une personne qui vient avec une nouvelle joyeuse et heureuse. Il est ressuscité. Ça dénote forcément. Et les disciples ne l'ont pas cru. Le témoignage d'une femme à cette époque avait malheureusement peu de crédit. Et les disciples n'ont pas cru Marie. Non, c'est pas possible. Il n'est pas ressuscité. Plus tard, sans doute le dimanche dans l'après-midi, Jésus apparaît à deux disciples qui sont en chemin. Il s'agit d'un résumé très succinct de l'histoire des deux disciples qui se rendent à Emmaüs, et qu'on retrouve en Luc 24. On peut noter, en tout cas, que ces deux hommes font justement partie du groupe de disciples qui n'ont pas cru Marie. Il est dit au verset 12, « Alors deux d'entre les disciples qui n'avaient pas cru Marie. » Ces hommes n'ont pas cru Marie. Ils se baladent, ils vont à la campagne. Et là, Jésus se révèle aussi à eux en tant que ressuscité. Mais cette fois-ci, sous un aspect différent, nous dit le texte. Peut-être un aspect différent par rapport à la manière dont il s'est révélé à Marie. Sûrement un aspect différent de la manière dont ces hommes connaissaient Jésus pendant sa vie terrestre, avant sa mort et sa crucifixion. En tout cas, Jésus a fait cette capacité, après sa résurrection, de changer d'aspect. C'est pour ça que Marie l'a pris pour un jardinier, Jean 20, verset 15, et que ces deux hommes l'ont pris pour un simple pèlerin en voyage, Luc 24, verset 31. Jésus a fait cette capacité de changer d'aspect après sa résurrection. Et face à cette apparition de Jésus, ces deux hommes, qui n'avaient pas cru le témoignage de Marie, décident de rebrousser chemin pour aller vers les disciples, vers les apôtres, pour leur annoncer la résurrection de Christ. Mais là encore, comme pour Marie, ces deux hommes sont confrontés au même scepticisme des autres disciples, qui doivent sans doute penser qu'il s'agit là simplement de visions un peu farfelues. Non, Jésus n'est pas ressuscité, ce n'est pas possible. Et plus on avance, plus on est surpris, déconcerté peut-être par l'incrédulité des apôtres eux-mêmes. Jésus leur avait annoncé la résurrection. Une femme vient leur annoncer, deux autres disciples viennent leur annoncer qu'ils ont vu Jésus, et eux sont incapables de croire. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Finalement, verset 14, après être apparu à Marie de Magdala, après être apparu à ses deux disciples en chemin pour Emmaüs, Jésus se présente aux 11 apôtres, ce même dimanche soir. Ils avaient refusé de croire jusque-là, mais face à Jésus ressuscité, ils ne peuvent que plier le genou, ils ne peuvent que constater la véritable résurrection de Christ. Et Jésus leur fait de très lourds reproches par rapport à l'incrédulité. Il leur reproche à leur incrédulité, leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressuscité. Ils n'avaient pas été capables, ces apôtres, de croire ceux qui leur avaient annoncé la résurrection. Ils n'ont pas été capables de croire dans la résurrection de Jésus, alors que pourtant, ils avaient entendu le témoignage de témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Et c'est malheureux, car c'est ce que devraient faire tous ceux qui allaient entendre le message de la bonne nouvelle des apôtres. Tous ceux qui allaient entendre les apôtres par la suite devraient croire le témoignage oculaire des apôtres. Et eux n'avaient pas été capables de le faire. Et je tire deux leçons importantes du doute des apôtres sur la résurrection de Jésus. La première, c'est que ce passage nous révèle que les apôtres n'étaient pas des personnes prêtes à gober n'importe quoi, comme on veut nous le faire croire parfois. Ce n'étaient pas des ignares qui ont cru un mythe. Non, c'est tout le contraire. C'était des hommes peureux, tristes, incrédules. Mais un événement particulier est venu tout changer dans leur vie. La résurrection. La mort de Jésus les a laissés tremblants, abattus, sans espoir. Et après la révélation de la résurrection de Christ, ils ont risqué leur vie. Ils sont morts martyrs. Ils ont bouleversé le monde en témoignant de l'Évangile. L'un des arguments les plus forts de la véracité de la résurrection de Jésus-Christ, c'est tout simplement de constater le changement majeur dans la vie des apôtres, ces hommes peureux, ces hommes incrédules. Tout a changé dans leur vie parce qu'ils étaient convaincus de la résurrection de Christ, parce qu'ils étaient certains que Jésus était ressuscité. Une deuxième leçon que je retire aussi, pour nous aujourd'hui, est-ce qu'il nous arrive de douter de Dieu ? Est-ce que le doute vous assaille aussi aujourd'hui, parfois ? Je crois qu'à un moment donné dans notre vie, le doute nous assaille chacun. Quelles que soient nos convictions profondes, on peut douter. Et je suis convaincu que nous pouvons apporter tous nos doutes, toutes nos questions devant Dieu et devant Christ. Vous doutez de Dieu ? Alors mettez-le au défi de se révéler à vous. Dieu est un Dieu qui est prêt à être mis au défi de se révéler dans nos vies si notre démarche est honnête. Si nous sommes dans une recherche honnête de Dieu, Dieu est prêt à être mis au défi pour se révéler à nous. Dieu ne se cache pas, mais celui ou celle qui le cherche et qui le recherche avec honnêteté dans sa vie le découvrira forcément. Parce que Dieu est un Dieu qui veut se révéler à celui qui le cherche, à celle qui le cherche avec honnêteté. Par la suite, au verset 15, Jésus rapporte le grand ordre de mission qu'on retrouve sous une forme plus connue en Matthieu 28, versets 18 à 20. « Allez de par le monde. » Il dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. » Cet ordre, Jésus l'a donné à ses disciples la veille de son ascension, juste avant de partir. Il s'est donc passé plusieurs jours entre le verset 14 et le verset 15, 40. Verset 14, Jésus apparaît aux disciples le jour même de sa résurrection, le dimanche. Verset 15, Jésus parle aux disciples juste avant de les quitter. Et on sait qu'entre ces deux moments, 40 jours se sont passés. Donc il faut le savoir, entre verset 14 et verset 15, il y a un temps qui s'est passé. Et avant de partir, donc, Jésus laisse à ses disciples cet ordre de mission d'apporter le message de la bonne nouvelle à travers le monde. Et il poursuit au verset 16, et c'est là où on a un problème, par une parole qui peut prêter à controverse à propos du baptême. Il dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Si on prend ce verset tel quel, la conclusion qui semble évidente est de dire que pour être sauvé, il faut deux choses. Avoir la foi en Jésus-Christ, croire que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, et, deuxième chose, se faire baptiser. La question qui se pose est donc celle-ci. Le baptême d'eau est-il nécessaire au salut? Oui, non, peut-être, ça dépend, on vote, non. C'est en tout cas en partant de ce verset-là et de certains autres que des chrétiens arrivent à cette conclusion. Le baptême d'eau est nécessaire au salut. Si tu veux être sauvé, il faut croire mais aussi être baptisé. Si tu n'es pas baptisé, alors tu n'es pas sauvé. Et c'est la doctrine de l'Église catholique, et c'est aussi la pensée de certains mouvements évangéliques. Pour ma part, il me semble que c'est une grosse erreur. Et c'est ce que nous croyons aussi dans notre assemblée. La foi seule est nécessaire à notre salut. Cela est affirmé avec tellement de force tout au long de l'Écriture qu'on pourrait citer de nombreux versets pour appuyer cette doctrine. La foi seule sauve. Environ 150 passages du Nouveau Testament affirment que le salut s'obtient uniquement par la foi seule. C'est l'une des vérités les mieux établies du Nouveau Testament. Voilà juste trois versets les plus connus par rapport à cet aspect-là. Éphésiens 2, verset 8. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Romains 5, verset 8 et 9. « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, sauvés donc, grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. » Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En plus de ces versets, plusieurs faits dans la vie de Christ appuient la non-nécessité du baptême pour être sauvé. Par exemple, il est dit en Jean 4, verset 1 à 2, que Jésus lui-même n'a baptisé personne. Jésus n'a baptisé personne tout au long de son ministère. Ce serait plus qu'étrange que Jésus n'ait baptisé personne si le baptême était nécessaire au salut. Il y aura un problème. Le brigand sur la croix n'a pas été baptisé et pourtant il a reçu l'assurance de Jésus lui-même qu'il serait avec lui dans le ciel. Si le baptême d'eau est nécessaire au salut, comment Jésus a pu faire une telle promesse à ce brigand sur la croix? Une dernière remarque pour vraiment marquer le fait que le baptême d'eau ne peut pas sauver. Exiger quoi que ce soit de plus que la foi en Christ pour être sauvé, revient à enseigner obligatoirement un salut par les œuvres. C'est obligatoire. Ajouter quoi que ce soit à l'évangile revient à dire que la mort de Jésus sur la croix n'est pas suffisante pour mon salut. Prétendre qu'il faut être baptisé pour être sauvé revient à dire qu'il faut ajouter une œuvre pour obtenir le salut. Le baptême est une belle œuvre, mais pas une œuvre nécessaire pour le salut. Je me baptise parce que je suis sauvé et parce que je veux être. Je veux obéir à Dieu, mais je ne me baptise pas pour être sauvé. Le baptême est là pour témoigner de notre engagement avec Dieu, pour témoigner du fait que nous sommes sauvés et que nous appartenons à Dieu. Il n'est pas là, il n'est jamais là pour nous sauver. Ce n'est pas une œuvre qui est là pour nous sauver. C'est une œuvre qui est là pour témoigner que nous sommes sauvés. Et ça fait toute la différence. La Bible ne se contredit pas. Et la Bible est plus que claire sur le fait que la foi en Christ est la seule et unique condition au salut. Alors, comment comprendre ce verset ? C'est un faux raisonnement, en fait. Leur raisonnement est le suivant. Si une affirmation est vraie, alors on peut en déduire que toutes ces négations sont également vraies. Pour mieux comprendre, si par exemple je disais une bêtise, celui qui croira et est alsacien sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que c'est une bêtise ? Est-ce que c'est faux ça ? Eh bien moi je vous dis que c'est vrai. Je vous dis que c'est vrai. Dans le sens, comment expliquer ça ? Celui qui a la foi et qui est d'origine alsacienne, comme moi, vous l'aurez compris, est sauvé. Celui qui n'a pas la foi est condamné. Ce verset ne dit pas que celui qui est grenoblois ne peut pas être sauvé. Il dit juste celui qui est alsacien et qui a la foi est sauvé. Mais on pourrait remplacer le alsacien par grenoblois, par italien, même par croate, pour ce soir. On pourrait remplacer par plein de noms. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est la même chose dans l'idée du verset qu'on a. La proposition ne dit pas qu'un chrétien doit obligatoirement être alsacien pour aller au ciel. Et c'est la même chose pour Marc 16, verset 16. Ce verset ne dit pas qu'un croyant doit obligatoirement être baptisé pour être sauvé. Il dit que les croyants baptisés seront sauvés, mais ne dit rien des croyants qui n'auront pas été baptisés, comme le brigand sur la croix, par exemple. Les croyants qui ne sont pas alsaciens sont sauvés aussi, heureusement pour chacun d'entre nous. De même, les croyants non baptisés seront sauvés aussi. Le baptême n'est pas mentionné dans la partie négative de la phrase. Il est écrit « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est l'incrédulité, le fait de ne pas croire qui me condamne, et pas le fait de faire un rite, quel qu'il soit, même le baptême. Le baptême n'est pas mentionné dans cette deuxième partie de la phrase, parce que c'est l'incrédulité qui met une personne dans l'impossibilité de confesser sa foi, et donc de se faire baptiser. Si je ne crois pas, le baptême n'a aucune signification, ça ne sert à rien. Ce verset nous révèle quelque chose concernant les croyants baptisés. Ils sont sauvés. Mais il ne dit rien des croyants qui n'ont pas été baptisés. En déduire que le baptême est nécessaire au salut nécessiterait qu'il soit écrit « Celui qui croira et ne sera pas baptisé sera condamné » ou « Celui qui ne sera pas baptisé sera condamné ». Mais on ne trouve évidemment rien de cela dans ce verset, ni nulle part ailleurs dans la parole de Dieu. Pour résumer et conclure sur ce verset, Jésus donne la condition positive à la foi. Celui qui croira sera baptisé. Et il donne la condition négative de l'incrédulité. Celui qui ne croira pas sera condamné. Par conséquent, on peut avoir la certitude absolue que la foi seule est nécessaire au salut. En plus de Marc 16, verset 16, un autre verset en particulier est avancé pour justifier le fait que le baptême est nécessaire au salut. Et je vais juste faire une parenthèse pour traiter ce verset aussi. Il s'agit de 1 Pierre 3, verset 21, qui nous dit « Nous sommes sauvés par un baptême. » Nous sommes sauvés par un baptême. Encore une fois, si on prend ce texte seul, Pierre est en train de contredire un nombre incroyable de textes de l'Évangile et de Nouveau Testament qui dit que la foi seule est nécessaire au salut. Comment comprendre ce texte ? Nous sommes sauvés par un baptême. Ben, il faut lire la suite. « Nous sommes sauvés par un baptême » qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême auquel Pierre fait référence ici n'est pas le baptême d'eau, à proprement dit, qui purifie des impuretés physiques quand je rentre dans l'eau. C'est pour me laver physiquement d'une certaine manière. Mais ce que représente le baptême, ce n'est pas la cérémonie extérieure et matérielle du baptême d'eau qui sauve, mais la réalité intérieure et spirituelle que le baptême d'eau représente. Quand je me fais baptiser d'eau, ce n'est pas le fait de rentrer dans l'eau et de sortir de l'eau qui me sauve, mais c'est le fait qu'en me baptisant, il y a une représentation, un symbole qui est fort. Le fait de me plonger dans l'eau représente la mort en Christ, et le fait de sortir de l'eau représente la nouvelle vie, la résurrection. C'est le symbole, l'engagement qui est derrière le baptême qui me sauve, et pas le baptême d'eau en lui-même. Le baptême d'eau est le symbole d'un engagement avec Dieu, et c'est cela qui nous sauve. Mon engagement avec Dieu représenté par le baptême, et pas le baptême d'eau en lui-même. Et c'est important de redire ces notions, parce que souvent on peut entendre des choses liées à ce verset-là, liées à Marc 16, verset 16. Est-ce que le baptême est nécessaire pour le salut ? Non, le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. Encore une fois, la foi seule sauve, c'est une des vérités les mieux établies de l'Évangile et de tout le Nouveau Testament. Et il faut en être sûr et convaincu, c'est important. Un autre point aussi délicat, versets 17 et 18. Jésus poursuit son discours en verset 17 en évoquant 5 signes miraculeux qui authentifieront l'origine divine du message de la bonne nouvelle. Tous ces signes se retrouvent dans le Nouveau Testament, à l'exception de celui qui consiste à boire un breuvage mortel. D'abord, ils chasseront des démons. Acte 8, verset 7. Beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris. Ils parleront des langues nouvelles. Acte 2, verset 11. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils saisiront des serpents venimeux et boiront un poison mortel sans que cela ne leur cause aucun mal. À noter à propos de ces deux signes, une meilleure traduction du grec serait si on les oblige à saisir un serpent ou à boire un poison mortel. Cette promesse de protection fait allusion à des occasions où on forcerait quelqu'un, un chrétien, à faire ces choses. Ce verset n'est en aucun cas une protection si un chrétien manipule intentionnellement des serpents ou si un chrétien décide de boire intentionnellement un breuvage, un poison. C'est hors de propos du tout, hein, cette idée-là. Un accomplissement du premier de ce dessin se trouve en acte 28, versets 3 à 5. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et l'a jeté au feu quand la chaleur en fit sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux « Pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. » Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Et Paul, très évidemment, n'a pas intentionnellement pris le serpent pour le mettre sur sa main. Et dernier point, ils imposeront les mains pour guérir. Acte 28, verset 8, Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. En lisant ce passage, ce verset 17, une question nous vient forcément. Est-ce que cela est encore valable aujourd'hui ? Est-ce que ces mêmes signes doivent encore accompagner le message de l'Évangile aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d'identifier qui sont exactement, au verset 17, ceux qui auront cru. Voyez les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui sont ceux qui auront cru ? Le verset qui précède, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset qui précède semble militer dans le sens de qualifier n'importe quel chrétien, et donc l'Église tout entière, à accomplir ces signes. Si c'est le cas, alors il faut s'attendre à voir ces mêmes signes encore aujourd'hui dans notre assemblée. Pour répondre à cette question, il est important de revenir sur le contexte historique et pour vraiment savoir qui sont ceux qui auront cru. On est à la fin de l'évangile de Marc, aux alentours de l'année 30, après la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus livre ses dernières paroles avant de quitter définitivement ses disciples. Dans l'ordre chronologique, quel est le livre qui suit Marc ? Jean, non, pas Jean. Jean, c'est la même chose que Marc. Actes des apôtres. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres qui relatent l'histoire du début de l'Église depuis l'année 30 jusqu'à l'année 60 à peu près. D'accord ? C'est le livre des actes des apôtres qui relate l'histoire de l'Église qui a poursuivi après le départ de Jésus au ciel. Comment s'est réalisée cette promesse des signes dans le livre des actes des apôtres ? Qui réalise ce type de signes dans le livre des actes des apôtres ? Eh bien, quand on y regarde de près, deux catégories de personnes seulement. D'abord, les apôtres eux-mêmes. Acte 2, verset 43. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Acte 5, verset 12. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Les prodiges et les signes se faisaient au milieu du peuple, au milieu de l'Église, par la main des apôtres. Ce sont les apôtres qui font des miracles, pas l'Église dans sa globalité. Et deuxième catégorie de personnes, ceux à qui les apôtres ont imposé les mains. En acte 6, les apôtres sont eux-mêmes débordés par la taille de l'Église de Jérusalem et décident de s'associer sept autres personnes qui semblent être d'une certaine manière des précurseurs du ministère de diacre avec eux. Et ces hommes vont représenter les apôtres pour des tâches quotidiennes. Les apôtres leur imposent les mains, d'ailleurs, dans ce sens. La position des mains est un signe d'identification. Ces hommes vont représenter les apôtres. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, à partir du moment où ces hommes voient leurs mains imposées par les apôtres, c'est seulement à partir de ce moment-là que ces hommes vont commencer à faire des miracles. Ou en tout cas, au moins deux d'entre eux, Étienne et Philippe. Les autres, ce n'est pas clair, mais Étienne et Philippe, c'est sûr. Donc si je résume, en Marc 16, on a une promesse de Jésus de donner la capacité de faire des miracles pour authentifier le message de l'Évangile. Mais dans les actes, on voit comment cette promesse se réalise à travers deux groupes de personnes, les apôtres et ceux à qui ils imposaient main. Entre parenthèses, selon 2 Corinthiens 12, verset 12, le signe distinctif de l'apostolat, c'est de réaliser des miracles. Et Hébreux 2, verset 3 à 4 semble aussi dans le même sens. Hébreux 2, verset 3 à 4 nous dit « Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. » Donc, qu'est-ce qui est dit dans ce verset ? Le Seigneur lui-même l'a annoncé. Jésus-Christ lui-même l'a annoncé. Ceux qui l'ont entendu, c'est ceux qui l'ont entendu de la bouche de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas entendu Jésus-Christ de sa bouche même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. Et c'est quoi le témoignage de Dieu ? En accomplissant toutes sortes d'œuvres miraculeuses. Pour ceux qui l'ont entendu, ceux qui ont entendu Jésus-Christ. Pour moi, les signes qui accompagnent ceux qui auront cru ne fait pas référence à ceux qui auront cru de manière générale, comme vous et moi, mais à ceux qui auront cru parmi les apôtres. Parce que qu'est-ce que Jésus leur reproche quand il arrive ? Il leur reproche quoi, Jésus ? Souvenez-vous ? Leur incrédulité. Vous êtes des incrédules. Et il leur dit à quoi après ? Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru parmi les apôtres. Jésus les invite à croire à sa mort et à sa résurrection, avec la promesse d'être revêtus d'une puissance particulière pour attester l'authenticité du message de l'Évangile. Et cette promesse est justement confirmée au verset 20. Il est dit « Le Seigneur travaille avec eux. » Avec qui ? Avec les apôtres, bien sûr. « Et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. » C'est la promesse qui se réalise. À travers qui ? À travers les apôtres. En conclusion, cette promesse n'est donc pas une promesse générale pour l'Église, mais une promesse particulière pour des gens particuliers, les apôtres de Jésus-Christ. On termine avec les deux derniers versets. Après ces dernières paroles, Jésus quitte les apôtres pour s'installer à une place où lui seul est digne de s'installer, à la droite de Dieu, la place d'honneur, la place d'autorité. Et c'est encore aujourd'hui la place de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 22 nous dit « Jésus-Christ est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. » Dans un sens, l'œuvre de Christ est maintenant terminée. Il est mort, il est ressuscité, il est placé à la droite de Dieu. Son œuvre est terminée. Mais dans un autre sens, son œuvre se poursuit à travers ses disciples. C'est ce qui est dit au verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Jésus est à la droite de Dieu, mais le Seigneur travaille avec les apôtres et travaille encore avec nous aujourd'hui. L'œuvre de Jésus s'arrête. Il est mort et ressuscité une fois pour toutes. Mais l'œuvre de Jésus en même temps continue et se poursuit. Jésus s'est assis et en même temps il continue de travailler avec nous. Cela fait près de 2000 ans maintenant que Jésus s'est assis à la droite de Dieu, dans une position d'autorité. Mais il continue son œuvre à travers nous aujourd'hui encore, pour que l'évangile soit proclamé à travers le monde, pour que l'évangile soit proclamé déjà à mon voisinage, pour que l'évangile soit déjà proclamé à mes collègues de travail, pour que l'évangile soit déjà proclamé à mes amis. Nous sommes tous appelés à poursuivre son œuvre, l'œuvre de Christ sur cette terre, en saisissant toutes les occasions qui nous sont offertes. Jésus a toute autorité, il est à droite de Dieu. Mais Jésus nous demande de poursuivre son œuvre, et il est avec nous. Il travaille avec eux, il travaille à nos côtés. Qu'on puisse avoir cette pensée aussi à l'esprit, encore pendant tout ce temps de vacances. Jésus n'est pas en vacances. Jésus est à la droite de Dieu. Amen.